Vous écoutez
RMC. RMC.
Son soulier, une finale de Coupe d'Europe. Laurent Blanc face à Antonio Lee. Oui. Il y est.
Voilà. Pour qui la première passe?
Pour notre président, sans qui on n'aurait pas pu vivre ces moments-là. Parce que compte tenu des difficultés que nous avons pour être une équipe compétitive face à ces orgues italiens, on est très heureux ce soir.
Marseille et le PSG en demi-finale de Coupe d'Europe.
Alors on voit les Marseillais là qui sont repoussés par la police italienne. Non, Blondeau, faut qu'il reste là, Stéphane. Faut rester là, Stéphane. C'est idiot, Stéphane. Stéphane, tu es en finale de la Coupe d'Europe, c'est à ça qu'il faut penser.
La France a du talent.
Ah là là, on va revivre tout ça ensemble en longueur, bien sûr. Alors Stéphane, c'était Stéphane Porrato, hein, évoqué par Thierry Gilardi. On va aborder tous les aspects de cette saison incroyable qui a vu donc l'OM à la fin atteindre la finale de la Coupe de l'UEFA face à Parme. Dans cette équipe, il y avait donc Christophe Dugarry, entraîné par coach Courbis, pour qui on a une pensée aujourd'hui. Voilà, donc coach qui était l'entraîneur de cette équipe qu'on a entendu à l'instant, et donc Peter Luxin, le milieu de terrain de l'OM, y était également de cette épopée 99. Il est en direct dans Rotten.
Incroyable le joueur. Salut Peter.
Salut à tous.
Ça va? Tu vas bien?
Bonsoir Peter. Bien. Salut.
Bon, on est avec Christophe Dugarry, on est avec Steve Savidan aussi.
Tu sais qui c'est? Tu te rappelles? Comment va mon Christophe?
Ça va mon poulet, ça va, et toi? T'as fait un concert ou quoi? T'as la voix rouée, qu'est-ce que t'es malade?
Je viens juste de sortir de l'entraînement ici aux États-Unis. Il faut les pousser, t'imagines un peu la qualité d'accord qu'il peut avoir ici, donc il faut leur crier dessus un peu.
T'es sympa pour tes joueurs.
Ouais, t'as raison.
Et tu as joué en MLS. Hein.
Du gars, pour les plus jeunes, tu peux nous dire quel joueur c'était, Peter? C'était un joueur incroyable.
C'était un joueur magique, magnifique, élégant, numéro 6, technicien hors pair. Ça tremblait jamais, voilà les ballons qui ressortaient par lui, il avait jamais peur des mecs qui montaient au pressing. C'était un joueur remarquable qui aurait dû c'était un peu le Verratti avant l'heure. Voilà. Alors peut-être moins dribbleur que Verratti, parce que Verratti il tentait des dribbles et dans la surface de réparation. Peter était un petit peu plus lucide, un petit peu moins fada certainement que l'était par moment Marco Verratti, mais voilà, une passe fort dans les pieds, un plat du pied. C'était un joueur qui éclairait le jeu, magnifique, remarquable, qui aurait dû faire une encore plus grande carrière que celle qu'il a fait.
Peter, quel regard tu as sur ta carrière en général?
Ben avant tout, je vais dire à Christophe qu'il me dit, il faut qu'il me dise combien je lui dois, parce que c'est
c'est sincère.
Non, je dis
que ce que je pense.
Peter, Peter, j'ai pas joué avec toi. On a joué par moments contre. Mais c'est vrai que t'étais quand même un joueur incroyable, quoi. Tu vois, à 20 ans, débuter comme ça, même avant, tu vois, à la SCAN et tout. Franchement, c'était fabuleux. Donc, toi, quel regard tu as sur cette carrière?
Déjà merci. Pour moi, quand on parle, par exemple, on parle de talent que peut-être que j'aurais pu avoir à une certaine époque. Je pense que le talent, plus que le talent, j'avais de la qualité, parce que le talent pour moi, c'est plus quand tu commences un peu à rassembler, que ce soit un certain état d'esprit, que ce soit un mental. Et c'est vrai qu'à un certain moment, mais peut-être que j'avais pas tout synchronisé. Donc c'est pour ça que pour moi, j'ai eu la carrière que je méritais, parce que à un certain moment, même sur les décisions que j'ai pu prendre sur la suite de ma carrière, peut-être qu'il y a eu des décisions qui n'ont pas été bonnes. Par exemple, surtout après l'Atlético Madrid, ou même après le Celta Vigo, où à cette époque, je vais vous dire, maintenant c'est vrai, c'était une vérité, c'est que j'aurais pu aller au Real Madrid quand Makelele part à Chelsea, je me rappelle, c'était à cette époque-là.
Ouais.
Et au lieu d'avoir plus ou moins poussé dans cette direction, j'ai laissé aller. Et encore, pour moi, la vie, elle est faite de décisions. Donc là, j'avais pris la décision de laisser passer. Et finalement, cette opportunité-là qui était magnifique, j'ai pas saisi. Après, c'est ce qui devait se passer. Donc après, j'ai une carrière. Je suis parti à l'Atlético Madrid quand même. J'ai fait 4 ans là-bas qui ont été magnifiques. Au Celta Vigo, pour moi, ça a été magnifique aussi. C'était
ce qui est dommage, c'est que tu n'as jamais eu l'équipe de France.
Ah, ça restera toujours. Là, c'est le truc vraiment qui me fait mal. Après, j'étais À l'époque, en 98, bon, de toute manière, c'était pratiquement injouable. Il y avait Christophe, il y avait à ces positions-là, il y avait Alain Bogossian, il y avait Deschamps, il y avait Patrick Vieira, il y avait Emmanuel Petit. Donc là, cette génération-là, elle était vraiment intouchable, presque injouable.
Ouais, mais après, Peter, tu me disais que tu avais deux Deschamps dans chaque pied.
Non.
En tout cas, deux
Ducas
dans chaque pied. Dans chaque orteil.
Ah ouais, mais peut-être que aussi Didier, il avait 15 Peter dans sa tête.
Mentalement,
Didier, il était costaud. Il savait jouer sur ses qualités ou les qualités qu'il n'avait pas.
Alors Peter, si on t'a invité, c'est pour revenir sur cette saison de Coupe d'Europe, donc 98-99. Alors, les premiers tours, sauf s'il y a un truc vraiment marquant, à la limite, on peut les passer. Je suis sûr que Ducas a oublié les adversaires en plus. Donc, à la limite.
On peut parler quand je marque des buts. Il n'y en a pas eu 50. On peut retrouver un ou deux buts marqués par-ci, par-là.
Il y a Celta Vigo déjà, je crois, en quart de finale.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est le quart. Au tour d'avant, en huitième, vous sortez Monaco. Il y a eu le Sigma Olomouc, le Werder Bremen. Ouais. Effectivement, en huitième. Ouais. Alors, à l'époque, quand même, pour les plus jeunes, c'était que des matchs aller-retour. Commencé en 32e.
Monaco,
match aller-retour. Et en huitième, c'est Monaco. Donc voilà, vous faites 2-2 là-bas et vous gagnez 1-0 au Vélodrome. Quart de finale contre le Celta Vigo. T'as dû leur taper dans l'œil à ce moment-là, Peter, puisqu'ils vont te recruter un peu plus tard. Donc là, vous gagnez 2-1 au Vélodrome et vous tenez le 0-0 là-bas. Et arrive donc cette demi-finale contre Bologne. Donc, Bologne, équipe un peu surprise, qui est sortie de l'Inter Toto, qui a un duo d'attaque pas mal sur le papier, Kenneth Anderson, BP Signori.
Ah ouais, Signori voilà, qui était là-bas.
Les
ouais.
deux. Bologne qui a sorti Lyon au tour d'avant, en quart de finale. Et donc, vous arrivez là, vous faites 0-0 à l'aller, vous tenez au Vélodrome. Et après, il y a ce déplacement donc à Bologne. Ducas, quel souvenir t'as peut-être de la causerie de Roland, enfin des mots peut-être avant ce match-là pour vous motiver, dans cette ambiance vraiment hostile là-bas.
Ouais, ben Roland, il y croit toujours de toute façon. Et puis Roland, c'était encore une époque où il était génial. Bon, c'est après qu'il s'est détérioré, mais avant, il était encore. Là, c'est la période Roland. Ouais, Roland a été un entraîneur. Ouais. Il a eu sa période d'entraîneur. Moi, j'ai notamment à Bordeaux et même à Marseille où il a été fantastique. Voilà, il savait te transcender. Il connaissait le point faible de l'adversaire. Il connaissait le point fort de son équipe. Ça a été une période où c'était un super entraîneur. Ouais. Il aurait mérité de gagner bien évidemment des choses. Et ça, à cette époque-là, bien évidemment qu'il est possédé comme à chaque fois. Voilà, jouer une demi-finale de Coupe d'Europe. En plus, il est très très proche à cette époque-là de son président. Enfin de notre président monsieur Dreyfus, donc voilà, c'est un match décisif et bien évidemment que Roland y croit. Il est plein d'anecdotes et il connaît en plus l'Italie par cœur, ayant passé beaucoup de temps à Monaco. Il connaît parfaitement la mentalité italienne et tout ce qui va se passer, et le match nous le décrit, et hormis la fin du match qui se passe comme ça mais avec la bagarre sur laquelle on va revenir, mais c'est un match ouais. On sait qu'on peut le gagner et on va là-bas sincèrement confiant. On sait que ça va être compliqué, mais on va là-bas confiant. On a une excellente équipe à l'époque.
Exactement. Alors ça, je vais citer quelques noms quand même de cette équipe. Donc Laurent Blanc, William Gallas en défense. Quand on voit après dans les clubs où ont évolué tous ces joueurs, on se dit voilà, il y avait du monde. Peter donc au milieu de terrain, Daniel Bravo également. Et puis devant, il y a du lourd. Pires, Ravanelli, Ducas, Florian Maurice qui va rentrer ouais. être décisif sur ce match. Titi Camara également, voilà. Et donc sur ce match, vous prenez le premier but. Alors j'ai vu dans les comptes rendus que Ducas a une occasion à la 12e, malheureusement.
Il a vendage.
Encore raté.
C'est raté. Ouais.
Mais, bon, voilà, ça
mais tu vas cadrer une autre tête. Tu vas cadrer une autre tête un peu plus tard. Mais bon.
C'est à peu près ça. Ouais.
Ensuite donc ouverture du score de Paramati à la 18e. Pénalty pour vous, faute sur Florian Maurice à l'heure de jeu. Et là,
il y a jamais
Peter,
pénalty,
tu te souviens, il doit le tirer deux fois.
Hein. Ouais. Il le tire deux fois, ouais, c'est ça.
Dans l'ambiance chaude là-bas et tout, et il le marque deux fois parce que donc il a dû retirer le penalty parce qu'il y avait des joueurs qui sont entrés à ce moment-là. Donc faut être costaud pour aller mettre les deux penalties et faut être costaud pour tenir le score de un partout jusqu'au bout, hein, Peter.
Déjà avec Laurent, nous c'était notre président. Bon, je pense que Christophe va le confirmer. C'était un joueur extrêmement important pour nous et c'est pour ça que l'année d'après, après je reviens sur Bologne, l'année d'après, elle est un peu plus difficile parce que justement on n'avait plus Laurent avec nous. Et sur ce match, il a montré sa forte caractère aussi pour marquer deux fois. Et le match a été vraiment pas évident. Je pense qu'à la maison, on peut faire quelque chose de mieux pour arriver encore sur ce terrain italien un peu plus tranquille. Mais ça a été dur. Et on a vu cette différence de caractère un peu avec les Italiens. Quand ils avaient marqué le premier but, ils étaient là à perdre du temps, à être gentils avec nous, à nous relever, à nous aussi. Et après, à partir de ce moment-là, quand on a égalisé le match, le match a été complètement différent. Mais on le savait. On le savait, mais ça reste encore un énorme souvenir, quoi.
Et vous avez tenu. Stéphane Porato a fait ses arrêts en plus hein, dans ce match.
Ouais. C'était un super gardien, Stéphane. Et après, bon, ça a été plus compliqué pour lui la suite de sa carrière à Monaco, mais.
Non, mais à l'époque,
à Marseille, il a eu un gros passage. À Marseille, il a
prend la place de Kopke,
il est en équipe de France.
Exactement.
Il est troisième gardien en équipe de France.
Ouais. Ah ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin du match? Du gars, là, c'est pour toi. Coup de sifflet final. Ou peut-être Peter d'abord.
Ouais.
Ça part plutôt de qui?
J'ai déjà entendu ce que Duga avait dit. J'ai déjà entendu ce que Christophe avait dit un peu sur la fin du match. Donc moi, je vais prendre les devants de Christophe. Ok. Donc pendant tout le match, en fait, tout le match. Je vais dire surtout sur les 10 dernières minutes. Bon, dû à ma couleur et c'est pas une justification. Je suis pas là en train de me justifier ou quoi que ce soit. Bon, on entendait beaucoup de cris de singe.
Ouais.
Donc le match fini. Je rentre tranquillement pour aller au vestiaire. En plus, on gagne, on passe. Enfin, on fait match nul, mais on passe. Donc, il n'y avait pas lieu pour moi de faire quoi que ce soit. Donc, quand j'entends ces cris de singe un petit peu, ben moi, je leur montre avec de la gestuelle de continuer. Donc, ouais. À partir de là, ce que les joueurs italiens ont dit, c'est que j'avais fait des doigts.
Ah.
OK. Donc, et je peux vous le confirmer maintenant, parce que je le dirai, j'ai une affaire, c'est du passé, je vous dirai les choses, mais que j'ai, à aucun moment, j'ai fait ce geste-là.
D'accord.
Aucune gestuelle, ça a été vraiment de dire, continuez. Ouais, ça me fait plaisir, continuez à faire ces cris.
Ces cris-là,
on est passé, on va en finale, continuez. Et à partir de là, j'entends Peter, attention. Donc là, je suis un peu à côté du tunnel et je vois 3 ou 4 joueurs qui sont en train d'arriver. On rentre dans le tunnel, Christophe qui vient à la rescousse, Patrick Blondeau qui est en train de sauter là-bas.
Tu prends un coup déjà quand tu fais ce signe?
Non, je ne prends aucun coup à ce moment-là parce que, en plus, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a plus de personnes. Après, dans le tunnel, il y a beaucoup plus de personnes. Mais bon, moi, j'étais resté là devant.
Il n'y a pas que des joueurs. Il y a des accompagnants. Il y a des gens du staff. Voilà. Enfin, il y a des observateurs. Il y a les mecs du stade. Il y a beaucoup de monde dans le tunnel. Ouais.
Il y a beaucoup de monde. Mais vraiment, le début de cette altercation, ça a commencé vraiment comme ça. C'est que les joueurs, après, ce qu'ils ont pu dire, que ce soit aux journalistes, c'est que moi, j'avais fait des doigts ou des gestes obscènes à... comment ça s'appelle?
Je ne parle
même plus français maintenant. Au public. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, moi, à aucun moment, j'ai fait des gestes obscènes. J'ai dit juste des gestes pour montrer qu'ils pouvaient continuer à faire ces cris de singe. C'est tout. Ouais. Et ça, c'est ma version. Cette version, ça ne changera jamais parce que ça a été vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé.
Okay. Et toi, Duga, à toi, comment tu vis le truc à ce moment-là?
Oh ben non, mais moi je suis derrière, voilà, je vois que les mecs ils commencent à chahuter Peter, alors sans le frapper non plus, mais à chahuter, ils commencent à lui prendre les mains, à le bousculer, et puis moi comme un idiot fini, j'y vais, je rentre dans les brancards et je cours et j'y vais. J'aurais pu arriver tranquillement en disant les gars calmez-vous, c'est fini, c'est si c'est là, ça se serait bien passé. Mais voilà, je suis un idiot fini.
Oui, et après t'es dans un état de nerf aussi après une qualif et tout.
Et je rentre. Voilà. Oui, mais. Ouais, mais il y a aucune justification. On a gagné, on est qualifié. Moi, les mecs, ils m'ont rien fait. Je vois mon copain qui se fait un peu chahuter, mais il y a pas non plus. Ils sont pas non plus en train de le rouer de coups. Donc, non, sincèrement, j'ai zéro excuse. Ouais. Je suis fautif à 100% du truc. Et je vais même aller plus loin. C'est presque moi qui déclenche le truc parce que si j'y vais pas comme un idiot, peut-être qu'après il y a pas Patrick Blondeau, il y a pas le reste, il y a pas tout ça qui déclenche.
Celui qui déclenche vraiment le truc.
Non, mais Christophe, je veux pas que tu. Non, mais en revenant à ce truc-là, je veux pas que Christophe non plus se mette tout sur le... Parce que finalement, c'est vrai que moi, en faisant ces gestes-là, j'aurais pu éviter. Mais s'il y avait vraiment quelque chose en moi qui me faisait un peu sortir de moi-même, c'était c'est un peu ces trucs, le racisme. Ouais. Donc c'est pour ça que là, j'ai perdu un peu...
Le contrôle, quoi.
Tu vois, ce moment-là, j'ai perdu un peu les pédales. C'est pour ça que j'ai fait ces gestes-là, mais je vous le répète encore une fois, il n'y a eu aucun aucun geste obscène de ma part. Ça a été juste. Donc, j'aurais pu arrêter, j'aurais pu ne pas faire ces gestes-là, mais le racisme, pour moi, c'était impossible.
Et tu prends combien de matchs de matchs de suspension, là, Peter, toi? Rien, non, rien.
Non, je prends, puisque je joue pas la finale.
Non, toi, t'as j'avais vu que t'avais accumulation de cartons, en fait. C'est pour ça que tu jouais pas la finale.
Ah ouais?
Bah, moi, c'est ce que j'ai vu. Après, c'est vous qui l'avez vécu. Vous savez mieux que moi.
Je crois que j'ai pris 2 ou 3 matchs.
Ah oui.
Alors, Dugas, toi, c'est sûr.
Moi, j'en prends 6.
Ouais. C'est ça.
Et après, qui en prend? Blondeau, il en prend aussi.
Alors Blondeau aussi. Alors parce que Blondeau, effectivement,
mec, il a perdu son arcade.
Il a mis un coup de tête à un CRS qui avait un casque quand même, hein, Patrick Blondeau.
Ah mais ça, c'est la fatigue.
Ouais,
mais
il a
pas vu qu'il était casqué.
Non, il rigole, mais c'est incroyable.
Alors Zach, cette scène quand même de la bagarre est incroyable. Mais
surtout qu'il jouait pas en plus, il est en tribune.
Ouais, c'est ça.
Et il y a des protections, il y a des grands plexiglas et tout ça. Je sais pas comment il a réussi à sauter par dessus le plexi.
Non, mais
il a sauté, mais comment il était au cas?
Ah ouais. Non mais à un moment. Alors donc la conséquence sportive de tout ça, c'est que donc ni toi Dugas, ni toi Peter, ni William Gallas, ni Fabrizio Ravanelli, pour accumulation de cartons, ne jouent la finale.
Ah ouais,
on parle de 4 titulaires là. Et donc faut bricoler. Et en face,
je crois qu'il y a même Robert Pires qui s'est énervé ce jour-là. C'est dire.
Ah bon?
Il en fallait beaucoup là.
Et en face pour cette finale. Donc c'est le grand Parme, la grande époque de Parme. Et là les noms ils font mal à la tête. Buffon, Thuram, Cannavaro, Dino Baggio, Vérone, Chiesa, Crespo, Alain Bogossian. C'est quand même du lourd là en face. Et Dugas, tu disais même si tous les titulaires étaient là, parce que vous avez pris 3-0 et vous n'avez pas trop existé malheureusement sur cette finale.
Alors tu sauras jamais, bien évidemment. Il manque beaucoup de titulaires, mais cette équipe de Parme, elle nous est supérieure. Elle est monstrueuse cette équipe. Je crois, voilà. En plus, bon, il y a des faits de jeu. Je crois que Laurent Blanc fait peut-être son plus mauvais match de tous les temps.
Il vous plombe sur le premier but où on est déjà limite.
Alors, on n'a pas beaucoup de marge. On leur offre le premier but. Bon, voilà, revenir après, tu sens que les mecs, ils sont sereins, ils ont plus d'expérience que nous, ils sont plus truqueurs, ils sont des super joueurs, ils ont des joueurs de classe mondiale. Voilà, nous, on n'en est pas là, on est une très très bonne équipe, mais on a des progrès à faire, et c'est le meilleur qu'à gagner. Après, on pourra jamais dire, en tant que, s'il y avait eu tous les titulaires, mais sincèrement, je pense pas que ça aurait changé grand chose.
Ouais, Peter, je me souviens.
Je suis d'accord. L'équipe, elle était énorme. Ce Parme-là, il était énorme. Et même avec les 4 joueurs, je pense qu'on aurait eu vraiment des difficultés. Après, bon, avec le premier but, mais bon, pour en revenir encore à Laurent, c'est Laurent presque. Bon, après aussi avec l'équipe qui nous mène jusqu'à la finale, parce que la saison que Laurent a fait cette saison-là, elle a été magnifique et énorme. Et c'est lui aussi que.
Il était magique ce
sur
joueur.
Sur le plan du mental. Il nous a tenu l'équipe.
Bon. Oui, Jean, tu voulais dire?
Non, mais j'écoutais sur Laurent Blanc, parce que c'est vrai que c'est triste, comme Dugas et Peter le disent, que ce joueur-là, qui a été énorme toute la saison, te plombe un peu le début. Et on sait tellement, parce qu'on en a joué des finales, tellement l'importance de ce premier but sur une finale, que quand tu fais une erreur comme ça, c'est compliqué, quoi, derrière.
Et donc vous perdez ce match, effectivement, vous avez du mal à exister. Ce qui est terrible aussi, c'est que vous allez perdre le championnat, deuxième derrière Bordeaux. Ouais. Et à l'arrivée, cette saison.
Non, je dis pas qu'on l'a perdu. Non, je dis qu'on l'a volé, mais pas perdu.
Vous êtes pas champion, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc à l'arrivée, vous finissez la saison avec aucun titre. C'est ça qui est terrible. Vous avez une énorme saison. Il y a plein d'émotions, mais il y a pas de titre à la fin.
Toute manière, comme Christophe dit, je suis d'accord. Hein, bon, elle s'est finie cette saison-là. Elle est finie d'une manière un peu particulière. Mais en même temps,
c'est le match on aurait pu essayer
de gagner. On doit gagner à Nantes. Ouais. Rappelle-toi, notre dernier match, on doit gagner à Nantes. Je crois que c'est Robert Pires qui marque. Et Bordeaux, avec qui on se bat pour le titre, joue au Parc des Princes. Il y a un décalage. Donc on finit le match avant Bordeaux PSG, parce que est-ce qu'il y a eu du retard à Paris, je me souviens plus. Donc nous, le match est gagné 1-0. Et je crois que quand on prend le résultat du match à Paris, je crois qu'il y a 2-1 pour Paris. Et Bordeaux marque 2 buts comme ça.
Pascal Feindouno, et on perd
le titre dans les dernières minutes. Ouais.
T'en as jamais parlé avec Bernard Lama, parce qu'il était pas exempt de tout reproche. Il était pas à fond sur le dernier match.
Je crois qu'il avait dit, il a assumé, je crois, plus ou moins.
Je crois pas, mais Francis Liasser, je crois, il y a des Parisiens qui ont assumé d'avoir un peu levé le pied pour pas laisser Marseille finir champion.
C'est étonnant.
Bon, après, bon, nous, on peut, je crois qu'ils avaient un Brésilien à gagner le championnat avant.
Oui, bien sûr.
En plus,
aussi. Mais je crois que d'ailleurs à l'époque
les deux
premiers buts, c'est le Brésilien qui marque, voilà. Et tous les mecs du PSG, ses coéquipiers, ils ont envie de lui dire mais qu'est-ce que tu fais, il a marqué deux buts, il fête ses buts et tout, mais il faut surtout pas quoi.
Il fête tout seul.
Non, mais le troisième but. Le troisième but qui passe en dessous de... Non, mais le troisième but, c'était un gag.
Ah, il la glisse entre les jambes, hein. C'est bien joué.
Ouais, Bernard, il a du mal à sortir.
Bon, après, Bordeaux avait une belle équipe aussi à l'époque.
Ouais. Ah, Bordeaux avait une belle équipe, oui, bien sûr.
Je pense, Christophe, qu'on est plus costaud quand même que Bordeaux. Ils ont une bonne équipe, ouais. Mais nous, on était beaucoup plus costaud, mais on a perdu le championnat, je crois. On perd à Paris aussi cette année-là.
Oui, vous perdez 2-1 à Paris, et Paris qui est en crise cette année-là.
Ouais.
Et vous perdez
je perds sur un but.
Vous perdez 4-1
sur un but, je perds le ballon.
Ah, tu perds le ballon sur un but.
Ouais, ouais. C'est ça. Tu fais le roulette, tu perds le ballon. Je crois que c'est Marco Simone qui marque 2 buts, un truc comme ça. On mène 1-0.
Et Bruno Rodriguez et Simone, ouais.
Ouais, exact.
Simone, ouais. On perd à Lyon aussi. Enfin, il y a des je me rappelle.
Je pense que c'était un peu la faute de Roland aussi, hein, là-dessus. Hein,
que vous gagnez sur laquelle de défaite
À la fin, il a craqué. Ouais.
Mauvaise gestion des hommes.
Ouais, je pense. Je pense qu'il a été performant. Trop d'émotion.
C'est qui André ? C'est Jérôme ?
Ouais, bien sûr.
Trop d'émotion.
Toutes les choses méchantes, c'est Jérôme.
Roland, c'est Jérôme qu'il faut appeler, pas nous. Nous, on n'a rien à voir.
Non. Roland, il a été énorme. On a lâché. Les joueurs, on a lâché.
Ah, puis ça se joue à pas grand-chose quand même, tout ça.
Peter, pour finir, quand je t'entends attaché, ce qui est normal à Marseille et tout, ta plus grosse erreur, ça n'a pas été de venir à Paris ?
Ton plus grand regret, ouais.
Non,
pas du tout.
Non.
La plus grosse erreur, ça a été qu'on nous ait pas laissé le temps de construire quelque chose avec Paris.
Et c'est qui ça ?
C'est un collègue à vous, non ?
Ah oui, mais j'allais dire Laurent Perpère, mais non, c'était pas ça, c'était pas ça.
C'est Louis qui vient à cette époque-là.
Ah, Louis, entraîneur, Louis, qui balaye tout quand il est. Quand il arrive.
Et après, attention, je suis pas là en train de critiquer. Il a une philosophie de jeu, il a un style de jeu, il a ses joueurs et quoi que ce soit. Il y a pas de problème. Ouais. Mais à cette époque-là, avec cette équipe qu'on essaye de faire grandir, on était jeunes.
Ouais, c'est vrai.
Il fallait nous laisser quand même un peu de temps et renforcer l'équipe.
Ça, c'était l'époque Nicolas Nelka, Stéphane Dalman, Bernard Mendy. Peter, quand est-ce que tu viens entraîner en Ligue 1 ? Il paraît qu'à Clermont, c'était chaud à un moment.
Oui. Ah ouais. C'était proche, mais même à Monaco il y a 3 ans. J'ai le temps, on va dire que j'ai le temps. Là, ma famille elle est en train de venir ici. J'ai mes enfants qui sont à l'université ici. J'en ai un autre qui est en train de jouer au ballon, qui peut-être va signer aussi en France dans des centres de formation. Donc, je fais ça. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis plus moi en train d'attendre et de voir ce que ma famille va faire, plus que de mon ambition personnelle.
Mais si t'as un poste de numéro 1 qui tombe, tu vas pas le refuser. C'est possible.
Ben, à Clermont, c'est ce qui s'est passé.
D'accord. Ok.
D'accord.
Ouais, t'es comment, Peter ? T'es toujours beau gosse avec les terres de l'Ox ou t'es comme nous ? T'es gras et moche ? T'es devenu comment ?
Je suis toujours beau gosse, mais sans cheveux.
Ah, t'as tout rasé.
Ouais, Christophe, je te ressemble un peu plus maintenant.
Très bien. Après, il vaut mieux être rasé qu'après filer des mèches blondes, là, comme certains, là, qui veulent devenir rester jeunes et tout. Il y a des mecs qui mettent des mèches blondes.
En Turquie,
c'est pas ce que c'est, ces types-là.
À ceux qui font des teintures à 45 ans, oui, c'est un autre débat. Alors, merci. Merci, Peter.
Merci, Peter. En tout cas, c'était très sympa. Un grand plaisir.
Jérôme,
salut, poulet, à bientôt.
Un grand plaisir. On espère te voir en Ligue 1, entraîner quand même.
Ah oui.
C'est gentil. Merci beaucoup.
Allez, bisous, bye.
Peter Luxin, donc, qui était en direct avec nous.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.